RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour et bienvenue dans le supplément du dimanche. Dans un instant, nous serons à Belgrade. Comment se cicatrisent les plaies de la guerre ? Comment évoluer ? Comment s'ancrer à l'Europe quand le passé se conjugue au présent ? Quand 25 ans ont passé et que cela ne change rien ? Que pour les élites politiques, l'ennemi c'est toujours l'autre ? Échauffe à blanc l'opinion. La Serbie 25 ans après, c'est dans un instant. C'est une histoire de particules de vent polaire qui entrent en interaction avec la haute atmosphère. Et cela donne la vision irréelle et si belle d'une aurore boréale. Nous serons avec Léopold Picot à Yellowknife, dans le nord canadien. Micro en main, il en a été le témoin, mais il a vu aussi ce qui devient une industrie touristique. Il nous racontera ses craintes en deuxième partie d'émission. Comme à chaque fois, 20 minutes de reportage et ensuite, le témoignage.
L'alerte aérienne a été levée à Belgrade. Toute la nuit, les avions de l'OTAN se sont livrés à une activité intense au-dessus de la capitale yougoslave. Mais la tension semble être retombée en partie maintenant après une nuit de bombardement. Les premières frappes...
C'était le 24 mars 1999. L'OTAN débute ses bombardements sur la Yougoslavie dirigée par Slobodan Milošević. Le dirigeant nationaliste serbe est accusé de préparer une nouvelle campagne de nettoyage ethnique contre les Albanais du Kosovo. Pendant 78 jours, l'Alliance bombarde, principalement des cibles militaires, mais les frappes font aussi des centaines de morts civiles. Aujourd'hui encore, le souvenir de ces bombardements reste très présent dans la mémoire collective et dans une Serbie peuplée en majorité de Slaves orthodoxes. Le conflit en Ukraine a ravivé le sentiment anti-occidental. 25 ans après, la Serbie toujours hantée par les bombardements de l'OTAN. C'est un grand reportage de Louis Seyé.
Bonjour,
je suis Ludmila.
Dejan, désolé du retard. Voilà. C'est ici qu'on s'est rencontrés, Ludmila et moi, il y a 25 ans, le 24 mars 1999. C'était notre premier rendez-vous, exactement à cet endroit. On ne s'intéressait pas vraiment à ce qu'il se passait au niveau politique, et d'un coup, on a vu les premiers avions de l'OTAN, les premiers tirs, puis on a entendu les premières sirènes. On a aperçu les gens en bas du parc qui allaient dans des refuges. Il y avait un club près de la Sava et on voyait que les gens y allaient avec des couvertures. Et au bout d'un moment, des sirènes étaient en train de sonner en continu et c'était le signe que ça commençait.
Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez entendu ces sirènes ?
En fait, quand on s'est retrouvés, Dejan voulait me montrer l'endroit où il était né. C'est l'un de ces bâtiments en face de Novi Beograd. Et ici, dans le parc de Kalai Majdan, il y a une belle vue. Mais quand on est arrivé dans le parc, c'est là que le bombardement a commencé, avec des éclairs et des tirs antiaériens. Mais même à ce moment-là, on ne pensait pas que c'était des bombardements. On se disait que c'était des feux d'artifice et que c'était idéalement romantique pour notre rendez-vous. Mais en général, ces années-là étaient déprimantes. Il y avait constamment des mauvaises nouvelles. Donc je ne savais pas ce qui allait encore arriver avec ces bombardements.
Oui, c'était comme l'apogée de la décennie, celle des années 1990. C'était le dernier chapitre de cette époque. Bien sûr, il n'y avait pas la guerre comme en Bosnie, au Kosovo et en Croatie, mais aux informations, on voyait constamment des images d'avions et de combats.
L'alerte aérienne a été levée à Belgrade. Toute la nuit, les avions de l'OTAN se sont livrés à une activité intense au-dessus de la capitale yougoslave. Mais la tension semble être retombée en partie maintenant après une nuit de bombardement. Les premières frappes sont donc intervenues hier soir vers 19h, temps universel.
À l'époque, le Kosovo, cette région du sud de la Serbie, est le théâtre d'affrontements entre les forces du régime nationaliste de Slobodan Milošević et la guérilla indépendantiste albanaise. 3 ans après la fin de la guerre en Bosnie, les Occidentaux craignent de nouvelles campagnes de nettoyage ethnique menées par l'armée yougoslave et une extension du conflit à la Macédoine.
Tout a été fait.
pour faire prévaloir une solution de raison, une solution de paix, une solution conforme aux droits de l'homme. Tout. Devant l'obstination injustifiable et incompréhensible du président Milosevic, les alliés unanimes ont estimé qu'il n'y avait plus d'autre choix que d'intervenir militairement contre des objectifs serbes bien ciblés, et ceci afin de contenir une tragédie qui, de proche en proche, menace la stabilité de tous les Balkans.
À Rambouillet, les négociations échouent et le président serbe refuse l'ultimatum américain. Sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OTAN lance l'opération Force Alliée. Pendant 11 semaines, l'Alliance Atlantique procédera à plus de 10 000 bombardements sur la Serbie, le Kosovo et le Monténégro. 25 ans après, ces frappes sont toujours un traumatisme pour la société serbe. À l'époque et encore aujourd'hui, Dejan Ubović et Ljudmila Stratimirović sont actifs au sein de la scène culturelle de Belgrade et opposés au régime nationaliste en place.
Aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire que ces bombardements n'ont pas duré si longtemps. Mais on était si isolés. Et tous les jours, je commençais à pleurer. Les larmes coulaient. On se demandait quand ça finirait et que tout irait enfin bien. On ne peut pas dire qu'on s'attendait à ce que les choses s'améliorent. C'était vraiment la pire des solutions de nous bombarder.
Surtout que, comment dire, tu es contre le pouvoir de Milošević. Depuis des années, tu es présent aux manifestations, aux protestations contre la police. Vraiment, en 1996, par exemple, on manifestait tous les jours contre les élections truquées. Donc on était contre tout ce que faisait ce régime, avec cette police qui persécute. Et puis les bombardements commencent. Et alors là, vous vous trouvez dans cette situation douloureuse et vraiment incroyable. Et maintenant, c'est nous, les civils, qui sommes bombardés. Ce n'est pas normal. C'était un peu schizophrène comme situation et les gens étaient en colère contre l'Occident parce que ce n'était pas normal, on ne le méritait pas.
Aujourd'hui encore, et toujours pendant les guerres, des décisions sont prises contre un pays et une société tout entière. Mais ceux qui prennent ces décisions ne pensent pas aux individus. Mais en Serbie, il y avait tellement de gens qui, pendant des années, avaient refusé de servir le régime et qui ont fui les mobilisations, et ils ont disparu. Ou parfois, c'est leurs proches qui ont disparu. En Serbie, on se trouve quelque part entre l'Ouest et l'Est. Ça a toujours été une zone de turbulence.
Oui, et je pense qu'une énorme erreur a été commise à l'époque, mais aussi plus tard. D'une manière ou d'une autre, cela a profondément marqué les gens qui étaient un peu indécis entre l'Ouest et l'Est. Ils s'en souviennent. Encore l'autre jour, j'étais à l'hôpital et l'une des employées me parlait de sa voisine qui souffrait des conséquences de ces bombardements à l'uranium. Donc le sujet n'est toujours pas clos. Les Occidentaux n'ont toujours pas dit « Ok, nous avons fait des erreurs. Milošević était notre cible, mais beaucoup de gens qui ne le méritaient pas ont été victimes de ces bombardements. Ce sentiment persiste au fil des années. »
Le bilan des frappes et des victimes civiles n'a jamais été officiellement établi. Il varie de 500 morts, essentiellement des Kosovars albanais selon l'ONG Human Rights Watch, à 2500 selon les autorités serbes. Au pouvoir depuis 2012, le président Aleksandar Vučić agite régulièrement le souvenir de ces bombardements. Le dirigeant populiste était lui-même à l'époque le ministre de l'Information de Milošević.
Président de la République serbe, Aleksandar Vučić.
Ce qui est un crime pour nous, la mort de 2500 civils, la mort de 79 enfants, la dévastation d'un pays, des dégâts qui se comptent en dizaines de milliards de dollars, tout cela sera toujours un crime pour nous. Mais pour eux, quand ils l'admettent, c'est une erreur. Et parfois, ils ajoutent l'adjectif tragique. C'est ce que nous n'accepterons jamais.
Le traumatisme de ces bombardements est aussi rappelé presque quotidiennement dans les médias contrôlés par le parti du président Vučić. Ce souvenir douloureux s'affiche aussi dans les rues de Belgrade. 25 ans après, plusieurs bâtiments détruits par les frappes sont toujours en ruine. Le ministère de la Défense, mais aussi le bâtiment de la RTS, la télévision d'État.
10 morts et 18 blessés seront retirés des décombres du bâtiment de la télévision serbe, selon l'agence de presse yougoslave Tanjung. Une frappe qualifiée de légitime, voie par l'Alliance et annoncée en filigrane depuis le 17 avril par le général Clark, commandant les forces alliées, au motif que la télévision serbe était un outil de propagande du président Milosevic.
Un lieu symbolique des victimes civiles de ces bombardements, mais aussi controversé puisque le régime de Milosevic est accusé de ne pas avoir donné l'ordre d'évacuer. Aujourd'hui, les ruines du bâtiment sont toujours bien visibles, tout près de l'église Saint-Marc, dans le centre de Belgrade.
Je suis Aleksandar Obradović, j'ai 39 ans et je suis anthropologue ici à Belgrade.
Là, on est devant le bâtiment de la RTS, donc c'est la télévision d'État. Est-ce que, à l'époque, vous et votre famille, vous la regardiez ? Est-ce que c'était un média très regardé en Serbie ?
C'était un exemple d'une situation très complexe avec la société serbe à l'époque, même aujourd'hui, parce que à l'époque et aujourd'hui, RTS a été vu par beaucoup de monde comme une télévision du régime qui informe pas avec de objectivité, mais très avec une agenda politique qui supporte le régime de Milosevic et aujourd'hui le régime de Vučić. Donc on n'a pas de sympathie pour RTS, mais quand même c'est un choc de bombarder une maison de médias.
Est-ce que vous diriez que ces événements ils sont encore vraiment traumatiques pour la société serbe ?
Oui, c'était un événement traumatique, bien sûr, mais je pense que cette traumatisation prolongée est intentionnelle. C'est un projet du régime pour cacher toutes les autres questions qui sont beaucoup plus importantes, comme l'économie, comme la justice, le fonctionnement des institutions, oppression des médias, oppression des institutions, népotisme. Donc tout ça se cache avec les questions, avec un débat de Kosovo. Cette question est très utilisée par le régime pour ça.
C'est peut-être aussi un aspect important, parce que souvent à l'extérieur, on oublie que la Serbie elle-même était très divisée. Il n'y avait pas un soutien total à Milosevic. Et ce qui se passait en Bosnie ou au Kosovo, est-ce qu'elle savait aussi ce qui se passait là-bas ?
La Serbie a été divisée et c'est encore divisé entre l'Ouest et l'Est. Donc il y a une partie de la société qui est pro-européenne et une partie de la société qui est pro-russe. Mais au niveau de la guerre et du rôle de la Serbie dans les guerres yougoslaves, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts de comprendre le rôle de la Serbie dans tout ça. Donc on peut dire qu'il y a un consensus que la Serbie a été une victime, et ce n'est pas vrai.
Les murs de la capitale serbe reflètent aussi ce sentiment dominant. On y voit beaucoup de graffitis anti-OTAN et anti-américains, ou des tags qui célèbrent certains militaires et paramilitaires serbes. Des personnes condamnées par la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Et depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, de nouveaux slogans sont apparus en soutien à la Russie de Poutine. En Serbie, la Russie est souvent perçue comme le grand frère orthodoxe et le principal allié du pays. Surtout par la jeunesse d'extrême droite, dont les idées se diffusent largement dans l'opinion.
Je m'appelle Dobrica Petric, je suis né en 1999, je travaille dans l'information et les technologies, la cybersécurité.
Crâne rasé et pull noir, il est devant une fresque écrite en cyrillique avec la date du 24 mars 1999.
Peut-être que l'on peut pardonner, mais on n'oubliera jamais ce qu'on nous a fait. C'est ce qui est écrit sur cette fresque. Ce n'est pas la seule, on a aussi réalisé plusieurs graffitis liés au Kosovo, parce qu'il n'est pas possible d'oublier qu'on nous a pris le Kosovo et on ne l'oubliera jamais. Ces peintures murales, c'est l'un des nombreux moyens d'informer les gens et d'atteindre les masses.
Donc là, depuis quelques mois, il y a des nouveaux graffitis qui sont apparus dans Belgrade et qui disent donc quand l'armée reviendra au Kosovo. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire que tout va s'améliorer pour notre peuple. Et il faut juste qu'on attende un peu que le contexte géopolitique change, car le temps de l'hégémonie occidentale et surtout américaine est révolu. Ici, il y a pas mal de gens qui se préparent à une sorte de conflit ou à une éventuelle libération des territoires, de nos territoires occupés. Nous, on travaille autant qu'on peut pour changer la situation dans tous les domaines. Pour l'instant, on ne peut pas affronter seul l'OTAN, mais je voulais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous pouvez prendre une photo là sur la manche de mon pull, c'est le drapeau de la Nouvelle-Russie. C'est un sweatshirt qu'on a confectionné avec notre groupe Jeunesse Serbe. Et là, sous la capuche, regardez, voilà Poutine.
Ah oui, alors là, Dobrytsa vient de mettre sa capuche et en sortant de sa capuche, en fait, il y a un masque de Poutine qu'il peut mettre sur sa tête. Alors, qu'est-ce que c'est ce pull, en fait ? Donc, il y a un drapeau rouge avec des bandes bleues, mais il y a aussi une date sur le côté, 1389.
Nous les Serbes, nous avons nos propres marques de vêtements patriotiques. Et c'est par exemple ce pull que je porte. Sur la manche gauche, on peut voir le drapeau de la Nouvelle-Russie. Et sur le côté droit, c'est l'année de la bataille du Kosovo, 1389, lorsque le prince Lazar a combattu les armées bien plus nombreuses de l'occupant turc. Il a été décapité et c'est un personnage sacré dans notre église. Et donc dans ma capuche, il y a ce filet à l'effigie de Poutine que l'on peut utiliser comme masque. Il y a d'autres marques qui reprennent tous ces symboles, comme Poutine.
Et celui qui peut vous aider pour changer les choses, c'est Vladimir Poutine ?
L'un d'entre eux, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est l'une des personnes qui peuvent nous aider. Mais je pense que si Trump revient bientôt, ce que j'espère vraiment, je pense que la situation pour nous, pour la Serbie, pour le peuple serbe et surtout pour notre peuple au Kosovo, cela va changer. Et on a beaucoup d'amis, les présidents chinois, biélorusses, les russes bien évidemment. Donc je pense que la géopolitique et le temps jouent en notre faveur, donc on attend et on se prépare.
S'il reste minoritaire, ce discours victimaire et revanchard se fait de plus en plus entendre dans la société serbe. À l'école ou dans les principaux médias, les crimes commis par l'État serbe dans les années 90 et le travail de la justice internationale sont passés sous silence. Bien peu de jeunes serbes ont entendu parler du génocide de Srebrenica en Bosnie ou des massacres commis au Kosovo. Mais quelques universitaires et une partie de la société civile tentent de remédier à cette amnésie généralisée. Comme avec cette exposition en forme de labyrinthe. Après Belgrade, elle sera présentée à Zagreb en Croatie, puis Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et les autres capitales de l'ancienne Yougoslavie.
Oui, je suis Dubravka Stojanović, je suis historienne, prof à la faculté de philosophie ici à Belgrade, département d'histoire. La chose la plus importante qu'il veut dire, c'était que sommes nous les victimes les plus grandes. Alors, Holocauste, ça n'existe pas, Srebrenica, ça n'existe pas, et tous les autres épisodes de Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc., etc. Alors, c'est que les Serbes, alors c'est une philosophie d'histoire qui est paranoïque, qui est xénophobe, qui est complètement fermée. Alors, on voit que soi-même... Et grâce à ça, vous êtes complètement, vous vous séparez du monde entier. Alors vous vivez dans une fantaisie qui n'est plus réelle. Vous ne voyez pas les victimes des autres, vous ne voyez pas ce que la Cour internationale a décidé. Ça vous n'intéresse plus, vous vivez dans votre fantaisie. Et à cause de ça, on a beaucoup de problèmes politiques parce qu'on est complètement isolé du monde réel et du monde entier.
Et ça vous inquiète pour le futur ? Parce que là, on se trouve dans un labyrinthe. Quand on se balade dans l'exposition, effectivement, on ressent ce côté enfermement dans le labyrinthe. On a l'impression que les sociétés ex-yougoslaves ne sont toujours pas sorties.
Et voilà, c'est pour cela qu'on a fait le labyrinthe. On a pensé plus qu'un an comment, quelle est quel est le message le plus fort? Et à la fin, c'était l'idée de Igor Stix qui a dit, mais il faut construire un labyrinthe parce qu'on est toujours là-bas, on est toujours dans cette décade de 90. On n'a pas sorti, mais la question est, est-ce qu'on veut sortir? Est-ce qu'on peut sortir?
Bonjour Louis Seyer.
Bonjour Patrick.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI dans les Balkans. On a le sentiment, à écouter votre reportage, que le temps s'est figé. Les bombardements de l'OTAN, c'était il y a 25 ans, mais pour beaucoup de Serbes, le ressenti semble se conjuguer encore au présent. C'est cela que vous avez constaté sur place?
Oui, c'est évidemment des semaines qui ont profondément marqué l'histoire récente du pays et qui ont vraiment traumatisé une bonne partie de la société. Il faut voir que sur place, ces événements sont encore très présents dans l'espace public, dans les kiosques. Les tabloïds, qui sont des médias très lus en Serbie, y font très souvent référence. Mais les bombardements sont aussi souvent le sujet de débats politiques sur les principales chaînes de télévision. Le souvenir de ces bombardements, il est aussi rappelé dans les rues des grandes villes, et surtout à Belgrade, la capitale, avec ses graffitis anti-OTAN et anti-américains que l'on peut voir vraiment sur les murs de presque tous les grands boulevards. Comme l'un des intervenants le rappelle dans le reportage, cette traumatisation prolongée, elle est aussi très utilisée politiquement, surtout par le parti du président Vučić, Aleksandar Vučić, qui était lui-même le ministre de l'information du gouvernement serbe à l'époque de l'intervention de l'OTAN. Donc avec tous ces rappels constants, ces bombardements, ils font vraiment partie du quotidien des Serbes encore aujourd'hui.
Et il faut dire à Louis que dans le contexte actuel, avec le retour des confrontations entre pays occidentaux et la Russie, tout cela, ça trouve un écho, je dirais, renforcé en Serbie.
Ah oui, depuis le 24 février et l'invasion de l'Ukraine, le discours anti-OTAN a vraiment repris de la vigueur en Serbie. Il faut bien avoir en tête que pour beaucoup de Serbes, surtout chez les plus nationalistes, la Russie, elle est perçue comme le grand frère orthodoxe, le seul vrai allié du pays, surtout sur la question du Kosovo, qui est vraiment un sujet extrêmement sensible en Serbie. Depuis 1999, Vladimir Poutine a fait régulièrement référence à cette intervention de l'OTAN, sans mandat des Nations Unies, on le rappelle, pour critiquer le double discours occidental. Ce précédent du Kosovo, il s'en est notamment servi au moment des occupations russes en Géorgie, et encore plus au moment de l'annexion de la Crimée en 2014, et encore ces derniers jours aux Nations Unies. Ces discours, évidemment, ils plaisent dans une Serbie encore traumatisée par ces bombardements et dont une majorité du pays n'accepte toujours pas l'indépendance du Kosovo.
En écoutant votre reportage, Louis, il y a tout de même une chose qui m'a frappé. C'est lorsque vous rencontrez ce jeune identitaire qui n'hésite pas à mettre un masque de Poutine devant vous et, si je me souviens bien, dans un grand éclat de rire.
Oui, alors là, je dois dire que je m'y attendais pas. Bon, évidemment, je savais que ce militant ultranationaliste, qui est d'ailleurs né l'année des bombardements, je savais qu'il allait me tenir un discours assez radical. Mais quand il a tiré de sa capuche une sorte de filet avec le visage de Vladimir Poutine, là, c'est vrai que j'ai été quand même assez surpris. Surtout qu'on était mi-journée, en plein centre de Belgrade, à un carrefour vraiment très passant. Mais ça en dit assez long sur la Serbie d'aujourd'hui. Ces militants, même s'ils sont vraiment très minoritaires dans leur extrémisme, ils n'ont aucun problème à exprimer leurs idées en plein jour et à les inscrire en grand sur les murs de Belgrade. Depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a d'ailleurs eu des manifestations pro-Poutine qui ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Donc afficher ce soutien à la Russie, ça ne choque en fait pas tellement en Serbie.
À l'inverse, est-ce que de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté des partisans d'une Serbie plus démocratique, d'une Serbie européenne, est-ce qu'on trouve un autre discours? Mais est-ce que même avant cette question, cette partie de l'opinion serbe, aujourd'hui, est-ce qu'elle est audible?
C'est compliqué parce qu'en fait, depuis plus de trois décennies, la Serbie a toujours été un pays très divisé. Il y a évidemment des partis politiques, une société civile, des médias indépendants qui sont clairement pro-européens, qui sont opposés aux tendances pro-russes du régime actuel. Il y a aussi ces enseignants, ces chercheurs qui essaient de montrer la réalité du rôle de la Serbie dans les années 90. Ils essaient de toucher la jeunesse du pays, de la sensibiliser à ces questions. Mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, ils ont un accès très limité à l'ensemble de la population, puisque le système médiatique, mais aussi le système éducatif sont largement verrouillés par le parti au pouvoir. Et la question des bombardements, c'est aussi un sujet très émotionnel qui divise au sein même de cette Serbie plus progressiste. Pour beaucoup, la Serbie a été avant tout victime d'une intervention illégale. Ils en veulent encore aux pays occidentaux, comme la France d'ailleurs, qui a participé à l'opération. Et enfin, il y a aussi le fait qu'une bonne partie de la jeunesse serbe, qui en ont assez d'être constamment ramenée à ces bombardements et à ces années 90, et ben cette jeunesse, elle quitte tout simplement le pays pour trouver à l'étranger de meilleures conditions de travail et un environnement plus apaisé pour fonder une famille et élever ses enfants.
Merci Louis Seyer pour ce grand reportage. Le complément du dimanche sur RFI, deuxième partie. On se retrouve dans 20 minutes en ligne avec Calgary.
Les anciens racontent toutes sortes de légendes sur les aurores boréales. Ce seraient nos ancêtres. Ils dansent, ils sont heureux. Ils nous voient vivre, survivre, lutter, élever nos familles et être forts. Ce serait pour ça que les aurores apparaissent pour danser. Il existe différentes histoires, celle de chasseurs qui n'arrivent pas à retrouver le chemin de la maison. Alors une vieille dame jette de l'eau en l'air, la lumière passe à travers et c'est comme ça que les lumières du Nord ont commencé. Comme elles vont d'est en ouest, les chasseurs ont pu retrouver leur chemin.
L'histoire que vous venez d'entendre, c'est Bobby Draigis qui la raconte. Il est membre d'une première nation autochtone près de Yellowknife. Des touristes viennent du monde entier dans cette ville du nord du Canada. Leur but, voir les aurores boréales, ces voiles de lumière dans le ciel nocturne que l'on ne retrouve que dans les cercles polaires. Yellowknife, autoproclamée capitale mondiale des aurores boréales, entend réduire sa dépendance aux mines pour tourner son économie vers les lumières du Nord. Les aurores boréales du Grand Nord canadien, du rêve à la réalité, c'est un grand reportage de Léopold de Picot.
18 heures de voiture, des paysages sauvages à perte de vue, de la neige, beaucoup de sapins, et cette route, parfaitement entretenue, elle relie la grande ville de Calgary, dans l'ouest du Canada, à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest. C'est l'équivalent d'un Paris-Lisbonne, avec pour seul compagnon des bisons, des lapins blancs ou des renards argentés. Toutes les 4 à 5 heures, une station-service apparaît, seuls quelques routiers et des locaux, dans leur pick-up, s'arrêtent prendre leur café. Peu de monde sur les routes car la plupart des visiteurs de Yellowknife arrivent par les airs à l'aéroport. Il est situé à l'entrée de cette petite ville de 20 000 habitants. Température extérieure, moins 45 degrés Celsius. Le parking d'une cinquantaine de places est gelé. Un avion vient d'arriver, le hall est bondé. Mackenzie, 27 ans, et sa mère viennent de récupérer leurs valises et attendent leur taxi.
Nous espérons voir des aurores boréales. C'est un peu ce qui nous a amenés de Toronto jusqu'ici. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. Cela fait partie de ma liste de choses à faire. J'aime l'espace et ce genre de choses, alors j'ai vraiment envie d'y jeter un coup d'œil. Nous espérons donc que le ciel sera clair et dégagé ce soir.
Mackenzie prévoit de rester 2 nuits sur place pour espérer voir des aurores. Les plus courageux prennent l'air dans les rues de Yellowknife, on les reconnaît à leur veste flambant neuve, toute rouge, la couleur fétiche d'une célèbre marque canadienne. Sun, 24 ans, voyage 2 semaines à travers l'Amérique du Nord.
Je vis dans la province de Guangdong, près d'Hong Kong, où il fait chaud toute l'année. Il fait toujours 25 degrés, donc on ne voit jamais de neige là-bas. J'ai déjà vu une aurore dans le vol vers Yellowknife et je compte bien en voir une sur le lac ce soir. Je suis fasciné par les aurores et les grandes terres couvertes de neige. J'ai réservé une excursion, ils vont nous emmener dans la campagne de Yellowknife. Ils nous ont équipés de vêtements chauds et un guide autochtone qui essaye de chasser les aurores va nous accompagner. Native guide trying to hunt the aurora with us.
Tous les jours, vers 20h, des navettes viennent emporter les touristes comme Sun à l'écart de la pollution lumineuse. Le minibus blanc du guide autochtone Bobby Draigis attend devant l'immense hôtel Château Nova.
Le ciel était clair et froid aujourd'hui, mais il s'est réchauffé et il s'est couvert. C'est à cet endroit où j'ai installé mon campement que ma grand-mère est née. Tous les membres de nos communautés nous reconnaissent. Cet endroit est notre zone familiale. Nous sommes allés au Conseil des Anciens et ils nous ont donné toute une série de règles. Puis nous avons obtenu l'autorisation de construire le camp de touristes ici.
Pour atteindre le camp de Bobby, il faut prendre une motoneige. Les 4 touristes, 2 Mexicains et 2 Canadiennes sont aux anges. On traverse un lac gelé. Mais ce soir, le ciel est couvert. Bobby doit les occuper en espérant que les nuages partent.
Ici, c'était les satous qui viennent des montagnes. Ils apportaient des silex et des choses à troquer. Nous faisons du commerce avec eux là-bas. Notre territoire s'étend de ce côté-ci et les Clinchons sont de ce côté-là. Ils sont restés ici pendant longtemps, mais maintenant ils sont partis à cause de ce fort, de ce poste de traite qui a été installé là. Ils sont descendus un peu plus bas.
Bobby enchaîne les anecdotes sans se vexer des touristes peu bavards qui sortent pour espérer voir les aurores. Le décalage culturel, il y est habitué.
Il y avait cette dame de Hong Kong, j'ai dit qu'il y avait 45 000 personnes dans les territoires du Nord-Ouest, elle a rigolé. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « À Hong Kong, un immeuble d'habitation, ça fait 45 000 personnes. » N'oubliez pas de vérifier à l'extérieur, les aurores vont d'est en ouest. Alors si vous sortez, regardez par là.
Au fil de la nuit, malgré les tambours et les histoires contées par Bobby, la déception des touristes se lit sur leur visage. Ils ne verront pas d'aurore ce soir. Une déception compréhensible. Certains touristes payent cher pour venir à Yellowknife, des milliers d'euros pour quelques jours. La ville s'est autoproclamée capitale mondiale des aurores et elle attire désormais les convoitises de nombreux tour opérateurs, parfois étrangers. Dans les rues, des panneaux traduits dans de nombreuses langues vantent les activités de chacun. Et le lendemain, dans un café de la ville, Joey Bailey fulmine.
Je suis le fondateur et le propriétaire de North Star Adventure, détenu à 100% par des autochtones.
Il était l'un des premiers à lancer son entreprise spécialisée dans les aurores et il se relève tout juste de la pandémie.
Nous étions la seule juridiction d'Amérique du Nord fermée. C'était désastreux. Le Yukon était ouvert, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, tout était ouvert. Les territoires du Nord-Ouest sont restés fermés pendant 2 ans, pas de tour. Chaque mois, la facture s'alourdit. Des dépenses. Nous avions 3 grands tipis et des tentes, tous vendus. Notre bus était la dernière chose qui nous restait à vendre et soudain, le ministre a dit « Ok, on rouvre tout le 1er mars. Nous avons survécu. » Il y a de nombreux tours opérateurs qui ne sont pas de Yellowknife. Ils ne sont même pas du Canada et ils viennent ici au début de la saison des aurores. Ils amènent leurs travailleurs, ils organisent toutes les excursions, prennent tout l'argent, les travailleurs avec, et repartent à la fin de la saison. Lorsque j'ai rejoint l'association en 2007, j'étais la 4e société de tourisme et aujourd'hui, il y en a plus de 120 enregistrés. J'ai parlé au gouvernement à plusieurs reprises. Ils disent, je cite, « c'est bon pour l'économie ». Non, ce n'est pas le cas. C'est bon pour l'économie, bon pour les hôtels et les restaurants, mais pas bon pour les entreprises locales. J'aime rappeler que c'est nous qui avons commencé à miser sur les aurores. Nous avons mis Yellowknife sur une carte, comme un endroit à voir pour les aurores. Et le gouvernement ne le reconnaît même pas.
Pour Joey, donner les moyens aux autochtones de s'occuper du tourisme, les protéger de la concurrence extérieure, c'est aussi un moyen de préserver l'environnement.
Comme les mines de diamants commencent à fermer, ils commencent à se rendre compte que nous pouvons associer, coordonner le tourisme aux efforts de conservation et à la gestion de la faune et de la flore parce que le changement climatique est énorme. Il a un impact sur la Terre. Or, les meilleures personnes pour prendre soin de la Terre, c'est nous, les peuples indigènes. Je commence à voir plus de peuples indigènes invités dans les conseils scientifiques et universitaires pour le changement climatique et la conservation. Ils commencent enfin à nous écouter.
Pour observer les aurores, Yellowknife a un potentiel énorme. Le guide touristique aime le rappeler, la situation géographique de la ville est unique au monde.
Premièrement, nous avons plus de nuits claires que n'importe quel autre endroit dans le monde. Deuxièmement, l'ovale des aurores vient juste au-dessus de Yellowknife, ce qui fait que nous, on l'appelle l'ovale au cou douloureux. Parce que quand vous êtes au Yukon ou en Alaska, vous devez regarder vers le nord du ciel. Mais à Yellowknife, il se trouve déjà juste au-dessus de nos têtes.
Au moins 9 mois dans l'année, à Yellowknife, si le ciel est dégagé, un visiteur a 98% de chances de les voir avant que le soleil de minuit durant l'été ne vienne éteindre la nuit. Ce spectacle du quotidien entraîne des vocations pour certains habitants, comme les Aurora Trackers, un groupe Facebook de photographes du coin. Ils y partagent leurs meilleures photographies.
Je suis Cristiano Pereira, je suis portugais d'origine. J'ai déménagé au Canada il y a presque 7-8 ans. J'ai déjà habité en plusieurs endroits du Canada, mais en 2019, Je suis venu ici pour la première fois à Yellowknife et j'ai tout de suite tombé amoureux d'ici, du Grand Nord, et surtout de le ciel d'ici. De mi-août à fin avril, on peut avoir des aurores boréales toutes les nuits, si le ciel est dégagé. Et je trouve ça passionnant. Il y a des gens qui aiment aller à la pêche, il y a des autres qui aiment chasser les animaux, de faire du surf, n'importe quoi. Moi, j'adore sortir et chasser les aurores à moins 40 ou à moins 30. Je trouve ça un peu extrême, mais ça me fait sentir en vie.
Sortir dans le froid, profiter du silence et du spectacle des aurores, Cristiano les connaît si bien qu'il en a même des préférés.
C'est ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça le break-up. C'est quand l'aurore explose, elle s'élargit complètement dans le ciel. Et après, c'est complètement des formes très abstraites, tu vois. Mais c'est vraiment comme une peinture dynamique dans le ciel, une peinture qui bouge. Et je trouve ça impressionnant et passionnant.
Pour la soirée, on a pris rendez-vous avec Lenora Barrett, une des amies photographes de Cristiano.
Nous n'utilisons notre ceinture de sécurité que lorsque nous sommes en ville. Une fois sur le lac, vous pourrez enlever votre ceinture et votre casque.
Son mari, Alain, conduit un véhicule étrange, une sorte de cabine de grue montée sur chenilles. On traverse directement sur le lac de Yellowknife, dont les routes de glace relient entre elles les nombreuses îles.
Oh, c'est une belle nuit, très claire.
Avec son compagnon, Lenora a construit une petite cabane en lisière de forêt sur les berges de cet immense lac. Un endroit parfait pour photographier les aurores.
Mon mari et moi allions toujours en randonnée avec notre chien ou autre et je prenais des photos que je partageais sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Beaucoup de gens me disaient que c'était très beau et ça m'a fait réaliser que j'avais peut-être un talent dont je n'étais pas vraiment consciente. Alan m'a donc acheté mon premier appareil photo et j'ai pris des cours. Je ne me lasse jamais de voir les aurores. Je suis toujours excitée quand j'en vois et je les décris comme un flocon de neige. Aucun spectacle n'est identique à un autre. Je ne pense pas que l'on puisse s'en lasser un jour. C'est comme si on se lassait d'une chute d'eau ou d'un coucher de soleil. On ne peut pas, c'est magnifique à chaque fois.
Pendant plusieurs heures, au bord du feu, on profite du moment en mangeant, on discute, bref, on attend les aurores. Lenora est désormais jeune retraitée. Elle en profite pour vendre des photos et elle a beaucoup d'anecdotes à raconter.
Et donc, un homme de Toronto m'avait contacté et il me disait qu'il voulait demander sa petite amie en mariage sous les aurores. Elle n'était pas au courant. Donc là, il s'approche et me dit « bonjour ». Et je dis « oh, salut ». Et il me dit « vous prenez des photos d'aurore ?» Je lui dis « oui ». Et il dit « j'essaye aussi de prendre des photos. Pouvez-vous m'aider avec mon appareil photo ?» Elle est gênée, elle dit « non, arrête ». Et puis très vite, je lui dis « vous savez quoi? Pourquoi je ne prendrais pas une photo de vous ?» Et puis il dit « oh, mon lacet est défait ». Il se met à genoux et la fille se tient là, elle le regarde, elle est choquée et je suis en train de prendre plein de photos. Et elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne savait pas que c'était un coup monté.
Lenora parle, mais jette aussi régulièrement un coup d'œil sur son téléphone vers la webcam de Yellowknife. Elle est tournée vers le ciel nocturne. Soudain, un léger éclair vert apparaît sur son téléphone. Il faut s'équiper pour affronter le froid nocturne.
C'est très important d'avoir le bon équipement, sinon ça peut être très dangereux. Garder son cou au chaud, ses mains au chaud, sa tête au chaud. J'utilise aussi des sortes de petites chaufferettes. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous les faites craquer et elles font un peu de chaleur pour vos mains. La sécurité, c'est vraiment important quand on a ce genre de température parce que des engelures peuvent survenir en quelques minutes. J'ai l'impression qu'elle devrait être là. Quand j'étais enfant, je croyais qu'en sifflant et en frottant les mains l'une contre l'autre, c'était censé faire danser les aurores. C'est mignon, hein ?
Yeah, it's coming. Here.
Oui, elle arrive. Elle arrive.
Yeah, it's really showing.
Oui, elle est vraiment en train d'arriver maintenant. Regarde ça.
There's a little bit of.
Il y a un petit pic là-haut. Si vous regardez directement par là, elles sont bien lentes. Ce sont les aurores parfaites pour la photo. Elles ne bougent pas trop vite. Si elles se déplacent trop vite, elles sont difficiles à photographier, mais celles-ci sont parfaites.
Ce qui marque avec les aurores, c'est la rapidité à laquelle elles apparaissent. C'est un voile vert, lointain, un peu diffus, et soudain, il explose, des traits de lumière verte, rouge, violette. Les aurores percent littéralement le ciel. Elles sont provoquées par le vent solaire, ces particules projetées par notre étoile. Ces ions et électrons sont redirigés vers les pôles par le champ magnétique de la Terre, et ils réagissent au contact de l'atmosphère pour donner naissance aux aurores. Lenora sourit devant mon air ébahi.
C'est ce que j'aime quand les gens viennent ici. Parce que Yellowknife, vous savez, c'est froid, c'est isolé. Nous n'avons pas tout ce qu'ont les grandes villes. On fait avec, vous savez. C'est un petit coin de paradis.
De ce petit coin de paradis, Yellowknife essaie de faire une force économique, profitant l'été de son lac et de ses forêts, l'hiver de ses activités sur glace. Aujourd'hui, un cinquième de la richesse annuelle de la région provient de l'exploitation minière. Et le tourisme, c'est 4 fois moins, seulement 5%, malgré son énorme potentiel. Donalie Demarc espère changer ça. Elle est directrice de l'agence gouvernementale du tourisme dans les territoires du Nord-Ouest.
Nous avons quelques-uns des meilleurs circuits de canoë du monde, les meilleures pêches du monde, avec des prises records et une remise à l'eau des poissons dans nos lacs, quelques-uns des plus beaux fleuves et paysages que vous verrez dans le monde. Mais ce que les territoires du Nord-Ouest ont de mieux à offrir, ce sont leurs habitants. La riche culture que nous avons, notre culture indigène, les gens qui appellent les territoires du Nord-Ouest chez eux. Si vous parlez à nos visiteurs, ils vous parleront sans doute des expériences qu'ils ont eues sur l'eau ou sur la terre, toutes les grandes choses qu'ils ont eu l'occasion de voir, mais ils parleront tous des gens qu'ils ont pu rencontrer.
Malgré les critiques des guides autochtones, la directrice du tourisme n'est pas contre attirer quelques tour opérateurs extérieurs à la région.
Je pense qu'un entre-deux est bon pour les territoires du Nord-Ouest et je pense que c'est bon pour nos résidents. Parfois, les gens arrivent, ils ont des idées différentes et apportent des choses différentes à la table. En revanche, si vous êtes un résident, que vous avez grandi ici et que vous y avez vécu toute votre vie, vous avez généralement une meilleure compréhension de ce dont vous parlez. Mais cela ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas venir s'installer dans les territoires du Nord-Ouest et investir et faire croître l'économie en ouvrant une entreprise ici. Ils sont les bienvenus.
Direction le musée de Yellowknife, plutôt fréquenté. La ville y expose les modes de vie des premiers habitants de la région, sa faune arctique, des ours polaires aux caribous. Amrit et Anish sont venus directement d'Inde pour voir les aurores. Un voyage à plus de $5,000 pour seulement 5 jours, mais ils ne veulent pas repartir sans en savoir plus sur les territoires du Nord-Ouest.
Notre chauffeur d'hier nous a fait visiter la ville de Yellowknife et nous a parlé du peuple indigène Dene, de la ville et de tout le reste, des moyens de subsistance des gens d'ici. Je pense que les visiteurs ne devraient pas s'intéresser qu'aux aurores, mais aussi à l'histoire de cette ville. Elle est si belle. Nous venons de parler à une femme qui fabrique des chaussures artisanales. Personnellement, j'aime l'histoire et je visite des endroits pour en apprendre davantage sur leur passé. L'endroit d'où je viens, en Inde, est un lieu historique. Alors oui, j'aime ça. Il ne faut donc pas se contenter de visiter les aurores. Il faut visiter l'ensemble de Yellowknife.
Reste un enjeu majeur et personne de Donalie à Joey ne l'a relevé, l'impact carbone direct de ce tourisme croissant. Pourtant, des centaines de touristes comme Amrit et Anish débarquent tous les jours de l'aéroport de Yellowknife, souvent pour moins de 3 nuits. Par moins 40 degrés, la ville surchauffe ses hôtels, certains jusqu'à 24 degrés. Aucune étude n'a relevé l'empreinte carbone d'un séjour pas si loin du pôle Nord, mais une chose est sûre, boosté aux images de rêve sur les réseaux sociaux, Yellowknife illustre les enjeux du tourisme actuel, réussir à développer durablement les communautés dans un monde qui se réchauffe à vitesse grand V.
Bonjour Léopold.
Bonjour Patrick.
On vient d'entendre votre grand reportage, vous êtes le correspondant de RFI dans l'ouest du Canada. Alors une question qui s'impose, est-ce que depuis votre tournage, depuis votre reportage, vous avez revu des aurores boréales aussi belles que celles dont vous êtes le témoin pendant les 20 minutes qu'on vient d'entendre?
Eh bien non, hélas. Je suis redescendu en fait de ce grand nord de la ville de Yellowknife après le reportage pour revenir à Calgary, c'est la ville où je vis dans la province de l'Alberta. Bon, je guette le ciel nocturne régulièrement avec une application en espérant les voir. Mais pour l'instant, bah, les conditions sont trop nuageuses. Ça fait 2 mois que j'ai pas réussi à en voir. Faut savoir que des aurores, on peut normalement en voir jusqu'au Texas. Tout ce qu'il faut, c'est un KP, c'est un indice de déformation du champ magnétique suffisamment fort. À partir d'un KP 4 sur 10, je peux en voir à Calgary. Et à partir de 6 ou 7, on peut commencer à en voir jusqu'aux États-Unis, en France et parfois même au-delà.
Et d'ailleurs, ça a fait la une des informations en France, Léopold, puisque effectivement, oui, ces derniers jours, les habitants du Var, dans le sud du pays notamment, ont aperçu les chanceux des aurores boréales. Donc, si je suis votre logique, l'année qui vient pourrait être riche en apparitions.
Oui, les aurores boréales ou australes, hein, si on est au sud, dans le pôle magnétique sud, bah, elles sont provoquées par l'activité du soleil. Chaque tempête solaire provoque des vents de particules et elles viennent réagir avec notre atmosphère et se concentrent au pôle nord et au pôle sud. Cette activité solaire, elle est cyclique. Tous les 11 ans, bah, le soleil il a une dynamique beaucoup plus intense et les vents solaires vont être plus forts. Donc entre 2024 et 2025, le soleil va atteindre ce maximum solaire. Les aurores vont donc être plus puissantes, plus intenses. Et l'ovale auroral, c'est ce qui passe juste au-dessus de Yellowknife, bah, il va s'étendre jusqu'à des latitudes plus basses, beaucoup plus régulièrement. Donc comme avec le Var, on va pouvoir en voir des aurores jusqu'au sud des États-Unis et même jusqu'au Mexique.
Léopold, qu'est-ce que ça fait de voir ces aurores en fait? On l'entendait dans le reportage, hein, ça paraît difficilement descriptible. Vous, comment est-ce que vous l'avez ressenti?
Je vous ai donné beaucoup d'explications un peu scientifiques. Mais c'est difficile de rester rationnel en fait, face à un spectacle comme ça. On a vraiment le cœur qui explose, le souffle qui s'accélère. Un instant, le ciel est noir, il n'y a pas un bruit, la voie lactée prend toute la place. Et la seconde d'après, c'est comme un déchirement, le noir se brise en éclats de vert, de rouge, de bleu. Il y a les aurores qui dansent littéralement, on me l'a plusieurs fois dit à Yellowknife. Et je comprends maintenant beaucoup mieux les peuples autochtones canadiens qui pensent que les aurores boréales, bah, c'est des portes vers l'au-delà.
Si on revient sur Terre, Léopold, vous avez donc été jusqu'à Yellowknife, à 18 heures de route au nord de Calgary. Et vous concluez votre reportage sur l'impact carbone sur ce tourisme généré par ces phénomènes naturels. De fait, c'est un réel problème sur place.
C'est quelque chose en fait que je ressens énormément au Canada en règle générale. On vit dans un pays qui est extrêmement inhospitalier, avec des températures et des phénomènes météo qui sont très intenses. C'est comme si le Canada n'était pas propice à une société capitaliste. C'est pas naturel en fait d'avoir des millions d'habitants dans un endroit aussi froid, aussi dur. Avant la colonisation, le pays était bien moins peuplé avec des migrations, donc des peuples autochtones qui allaient du nord au sud du continent selon les saisons. Les Canadiens, comme ils sont, bah, ils restent dans leur maison, ils sont extrêmement gourmands en énergie, ils surchauffent tout en hiver, ils refroidissent tout à l'extrême en été. Les distances sont gigantesques entre les provinces, l'avion est partout, la voiture aussi. Et donc un Québécois, bah, ça a une empreinte carbone moyenne de 11 tonnes de CO2 par an, donc c'est 5 fois plus que ce que prévoient les accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Et donc à Yellowknife, dans le Grand Nord, c'est un peu la concentration de tout ça. D'un côté, on a des peuples autochtones comme les Inuits, qui ont toujours été des petites communautés durables, habituées à vivre avec le froid, en accord avec la nature. Et de l'autre, un mode de vie capitaliste qui s'impose peu à peu, avec des touristes qui débarquent de l'autre bout du monde pour 3, 4 jours, j'en ai vu beaucoup à Yellowknife, avec une empreinte carbone supérieure à celle qu'on devrait avoir sur un an pour limiter le réchauffement climatique. Et donc même si les aurores, bah, c'est un spectacle inoubliable, j'ai eu un peu de mal à ignorer le gaz, le pétrole, le kérosène qui était utilisé en continu pour soutenir toute cette industrie autour des aurores.
Merci beaucoup Léopold Picot.
Merci Patrick.
C'est la fin de Grand Reportage, le supplément du dimanche, au générique Ludivine Amado. Un rendez-vous à retrouver sur le site de RFI et toutes les plateformes de podcast. L'information continue dans un instant, c'est le journal.